Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à tous à l'écoute de Métropolez-vous, le rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité de Toulouse Métropole. Les belles journées du début de l'automne sont propices aux flâneries et promenades le long de la Garonne ou du canal du Midi. Comme vous le savez, si vous écoutez régulièrement cette émission, deux projets métropolitains ont pour objet d'embellir et de rendre plus accessibles les abords du fleuve et des canaux qui traversent notre territoire. Il y a celui du Grand Parc Garonne, dont fait partie par exemple l'aménagement de l'île du Ramier. Et puis il y a celui qu'on appelle le Grand Parc Canal, que nous avions déjà évoqué et présenté il y a un peu plus d'un an à Métropolez-vous. La première étape de ce projet vient d'être lancée tout récemment, avec l'ouverture du chantier du Parvis Brienne, tout près du canal du même nom. Un chantier qui, comme tous les autres, va entraîner quelques difficultés à ses alentours immédiats de stationnement ou de circulation, mais surtout un chantier qui va modifier le visage du quartier, le reconfigurer et en faire donc un des hauts lieux du futur Grand Parc Canal. Nous allons vous expliquer tout ça au cours de ce numéro. Et pour vous donner toutes les explications sur ce projet, je reçois une nouvelle fois dans cette émission François Chollet, conseiller municipal délégué à la mairie de Toulouse, vice-président de Toulouse Métropole pour l'écologie, le développement durable et la transition énergétique. Bonjour monsieur le vice-président, bienvenue à vous aussi et merci d'être encore au rendez-vous pour les auditeurs de Radio Présence.
Bonjour.
J'ai indiqué en introduction que le chantier du Parvis Brienne lance le plus vaste projet du Grand Parc Canal. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement en quoi consiste celui-ci ?
Alors le Grand Parc Canal, c'est l'un des 5 grands parcs que Toulouse Métropole promeut. On connaît le Grand Parc Garonne, vous l'avez dit. Mais celui-ci, c'est le siège des 3 canaux, que sont le canal du Midi, le canal de Brienne et le canal de Garonne, qui traversent le territoire de la métropole et qui constituent un linéaire d'environ 30 km de voie d'eau. Ça concerne Toulouse, bien sûr, canal de Brienne, canal du Midi. Ça concerne aussi d'autres communes, Saint-Jory, l'Espinasse, Fenouillé. Et puis, il faut rappeler que le canal du Midi est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996. Et il s'agit là de créer un poumon vert parmi les 5 poumons verts de Toulouse Métropole.
Donc ces fameux 5 grands parcs de l'agglomération toulousaine, quels sont le contexte et les enjeux de ce projet Grand Parc Canal dans la métropole ?
Alors c'est d'abord de valoriser cette traversée végétale du territoire en lien avec les quartiers, avec les communes, pour en faire un grand parc métropolitain qui sera le pendant quelque part du Grand Parc Garonne, en tout cas qui sera à certains endroits à côté. Donc c'est mettre en valeur cette particularité qui est assez propre à Toulouse, qui sera reconnue demain comme une ville appartenant à la liste des villes européennes ayant des canaux. Et puis le projet Grand Parc Canal, il est connecté au Grand Parc Garonne, il va de pair avec lui, connecté au niveau du bassin des filtres par exemple, des Amidoniers, connecté dans les villes d'aval que sont l'Espinasse, Saint-Jory et Fenouillé.
Donc il y aura effectivement des interactions, des connexions, des complémentarités avec le Grand Parc Garonne. Il y a aussi, mais vous l'avez un petit peu souligné, un intérêt touristique bien sûr pour la métropole toulousaine.
Alors c'est clair que dans le développement, il y a ce souci de développer le végétal et d'apaiser ces lieux et d'en faire des lieux de promenade et de loisirs. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un enjeu économique. Il y a un enjeu à la fois de fret fluvial et un enjeu touristique certainement. Et nous pensons qu'il y a là une voie de développement qui peut plaider pour l'attractivité de Toulouse et de Toulouse Métropole en général.
Merci. Voilà quelques rappels qui étaient nécessaires pour bien comprendre dans quel projet global s'inscrit le chantier du Parvis Brienne. Nous allons venir à celui-ci dans quelques minutes. Dans les médias, nous allons nous intéresser au reste de l'actualité métropolitaine. Évidemment avec Corinne Saint-Félix qui nous a préparé son flash d'information hebdomadaire. Métropolez-vous, l'actu.
C'est une première sur le territoire de la métropole toulousaine. L'université Toulouse Jean Jaurès va appliquer le congé menstruel. L'université Toulouse 2 au Mirail avait, il y a 7 mois, déjà donné son accord de principe aux syndicats étudiants. Dans cette fac, les étudiantes qui souffrent de règles trop douloureuses ont désormais le droit de ponctuellement manquer des cours ou des travaux dirigés, et cela sans besoin d'un certificat médical. Les jeunes femmes, les hommes trans ou personnes non binaires menstruées doivent contacter l'enseignant du cours ou du TD concerné dans un délai maximum de 2 jours ouvrés suivant son absence. Contrairement à d'autres écoles, le nombre de congés menstruels par an n'est pas limité. Le classement des stations de métro de Toulouse les plus fréquentées a été dévoilé. Plus de 60 millions de validations ont été enregistrées sur la fréquentation du métro au premier semestre 2024. Certaines stations de métro à Toulouse ont la cote et atteignent des niveaux de fréquentation plus élevés que les autres. Le point de rencontre entre la ligne A et la ligne B du métro, la fameuse station Jean Jaurès, reste au sommet du podium avec du 1er janvier 2024 au 30 juin, 5 613 761 validations sur la ligne A et 5 879 352 sur la ligne B. C'est la station à Rennes qui vient ensuite avec 3 439 662 validations. Une fréquentation importante qui pourrait en partie s'expliquer par la présence de la ligne T1 du tramway et de la gare SNCF à cet arrêt. Sur la troisième place du podium se trouve la station Marengo SNCF, puis la station Capitole, suivie de la station Compense Caffarelli. La mêlée du numérique se déroule jusqu'à la fin de la semaine au Quai des Savoirs. C'est le rendez-vous incontournable des professionnels du numérique et de l'innovation en Occitanie. Le festival propose des conférences, des tables rondes, des ateliers et des moments de networking. Il est aussi diffusé en direct sur la chaîne YouTube, un festival où vous pourrez échanger avec des experts reconnus et découvrir les dernières tendances en entrepreneuriat, cybersécurité, industrie du futur et numérique responsable. Tout le programme est à découvrir sur leur site internet. Et puis un Toulousain bien connu, encore sacré lors de la 20e édition de la Nuit du Rugby, on ne l'arrête plus, son nom Antoine Dupont. Le demi-mêlé et capitaine du Stade Toulousain et du 15 de France a été récompensé à 2 reprises à l'occasion de la cérémonie de la Nuit du Rugby. Déjà sacré à 2 reprises dans la catégorie meilleur joueur de top 14, mais également multiprimé aux Oscars Midi Olympiques et élu meilleur joueur du monde en 2021, le demi-mêlé du Stade Toulousain, du 15 de France et capitaine des 2 entités, a une nouvelle fois écrasé toute la concurrence. Auréolé de son récent titre de champion olympique avec l'équipe de France A7, en plus du doublé top 14 Champions Cup avec son club, Toto s'est encore adjugé les titres de meilleur joueur du top 14 et meilleur international français. Quelques miettes pour le Stade Toulousain qui lui est récompensé meilleur staff du top 14.
Merci à Corinne Saint-Félix pour ce tour d'horizon de l'actualité métropolitaine. Et François Cholet, vous voulez peut-être la commenter. Alors, il y a cette information importante pour les élus, le classement des stations de métro à Toulouse est le plus fréquenté.
Oui, c'est l'occasion pour dire que les Toulousains plébiscitent le métro, c'est clair, on le sait. C'est l'occasion de dire aussi que le chantier de la troisième ligne avance, qu'il avance dans les délais qui sont prévus, avec évidemment des difficultés point par point sur les zones de travaux, et on remercie les Toulousains de leur compréhension pour ces difficultés, mais les tunneliers sont au travail, ils progressent, et je pense que c'est un élément extrêmement important pour l'avenir, avec une voie de transport qui transportera 200 000 personnes par jour, évitera 90 000 véhicules dans la ville et économisera 60 millions de litres de gasoil chaque année.
Oui, information qu'a confirmé la semaine dernière Jean-Michel Hatt concernant l'avancement du chantier. Effectivement, tout avance normalement et le délai prévu d'une inauguration, d'une mise à disposition du public fin 2028 est pour l'instant complètement maintenu.
Absolument.
Un petit mot sur Antoine Dupont, parce que je me disais, mais quel formidable ambassadeur pour notre
ville. C'est clair que c'est quand même le meilleur joueur du monde de rugby. Et à côté de ça, je pense qu'il y a une personnalité extrêmement attachante qui est caractérisée par une simplicité, par une humilité, une forme Il est naturel et il ne se met pas en avant. Et je pense que les gens l'aiment, quoi, et on l'aime.
On a beaucoup de chance d'avoir ces deux merveilleux ambassadeurs que sont Antoine Dupont et Léon Marchand, les deux meilleurs du monde dans leur sport respectif. Bien, merci pour ces réactions et ces commentaires de l'actualité métropolitaine. Nous revenons tout de suite au sujet principal de cette émission, le chantier du Parvis Brienne, première étape du Grand Parc Canal.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
La seconde partie de Métropole et vous avec François Chollet, conseiller municipal délégué à la mairie de Toulouse, vice-président de Toulouse Métropole pour l'écologie, le développement durable et la transition énergétique. Afin que nos auditeurs situent bien ce chantier, est-ce que vous pouvez préciser où se trouve exactement le Parvis Brienne écluse Saint-Pierre, puisque c'est le nom complet du projet en fait?
Oui, il se trouve devant l'école d'économie de Toulouse. Il consiste à la création d'un parvis entre l'école, l'église Saint-Pierre des Cuisines et le canal de Brienne. Alors, il s'étend de la rue Lancefoc au parvis de l'église Saint-Pierre-des-Cuisines et il consiste à d'abord la création d'une promenade piétonne le long des allées de Barcelone qui comprend la pose de banc, une piste cyclable bidirectionnelle. Il comprend également l'aménagement de la place des reines et des rois visigoths avec des plantations à ce niveau. Il comprend la création d'un parvis de piéton devant Toulouse School of Economics, c'est ce que je disais précédemment, végétalisé, arboré. Et puis, c'est vrai aussi, la restauration de l'écluse, donc la mise en valeur du patrimoine de l'écluse Saint-Pierre et puis du rempart médiéval autour.
Donc c'est un chantier tout de même assez vaste hein, dans ce quartier, hein, qui englobe une grande surface et qui touche plusieurs rues, plusieurs artères. Et quel est le calendrier de ce chantier qui vient donc d'être lancé là au tout début du mois?
Alors effectivement, il a été lancé début du mois de septembre. Il va se dérouler sur environ 14 mois. C'est ce que nous avons prévu, sauf s'il y a des aléas particuliers, climatiques en particulier. Mais donc, disons, jusqu'à la fin de l'année 2025 à peu près. C'est comme ça que nous l'avons prévu.
Alors, il y a des conséquences, comme je le disais dans mon introduction, que va avoir ce chantier, puisque pendant sa durée, la circulation, le stationnement vont être un petit peu contraints. Qu'est-ce qui est fait justement pour faciliter tout de même la vie des gens qui habitent dans ce quartier ou qui passent tous les jours pour leur travail dans ce coin?
Alors c'est vrai que la circulation, les trajets des transports en commun ont été modifiés début septembre. Ils seront à nouveau modifiés en janvier 2025 et en septembre 2025, qui sont des étapes du travaux. Et là, il y a une information vis-à-vis de la population qui a été donnée et qui est affichée d'ailleurs sur les panneaux de chantier. Je dirais que les riverains sont avertis par des courriers spécifiques. Nous avons essayé d'être en phase avec le déroulé des travaux et d'associer tout le monde à ces difficultés. Les allées de Barcelone seront fermées pendant plusieurs semaines en particulier, donc il y a une organisation à prévoir. Et puis je voulais dire aussi que les commerces de proximité, la salle de Barcelone, resteront accessibles tout le temps.
Ça va rester ouvert, la salle sera, on pourra l'utiliser voilà. Donc, et y accéder sans difficulté.
Voilà.
Et puis pour les transports en commun, donc il y a des choses aussi qui ont été mises en place. Hein.
Alors effectivement, au niveau des transports en commun, il y a des déviations qui ont été mises en place et qui seront adaptées en fonction des travaux.
Donc le chantier Parvis Brienne et écluse Saint-Pierre, c'est le premier acte en quelque sorte hein, du vaste projet du Grand Parc Canal. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ce que vous avez déjà dit tout à l'heure concernant ce Grand Parc, notamment ses objectifs?
Je crois que ce qu'on peut dire très simplement, hein, c'est que il s'agit de protéger, de dynamiser, de valoriser les paysages et les usages des canaux à travers plusieurs dimensions. D'abord la dimension environnementale, c'est favoriser la nature en ville, la biodiversité, on crée une forme de couloir écologique.
C'est oui, l'important aussi pour les animaux, parce qu'on a des animaux qui vivent en ville ou qui passent en ville.
Exactement. Ensuite, bon, c'est vrai qu'il y a sur ce canal-là et sur ce parc-là, une dimension patrimoniale. L'exemple de l'écluse Saint-Pierre en est un. Donc il s'agit de mettre en valeur les éléments patrimoniaux des canaux, que ce soit les écluses, comme on l'a dit, ou les ponts, enfin, etc. Il y a un enjeu qui est un enjeu aussi urbain, très clairement, de par la proximité des habitations, qui est un enjeu architectural. Hein, donc il s'agit de faire diffuser la nature dans les quartiers traversés, de faire des liens entre les cours d'eau et puis les éléments emblématiques des quartiers, les monuments, les squares, etc. Et puis, bon, vous l'avez évoqué aussi, mais je le redis, il y a un enjeu économique aussi, disons-le. Et c'est important, c'est embellir, animer les berges, recréer de l'activité de l'eau. Nous avons réuni récemment les bateliers et en collaboration avec VNF, nous essayons de voir comment on peut développer cette activité de batellerie sur le canal. Puis il y a aussi, disons-le, un aspect mobilité qui consiste à réorganiser et sécuriser les déplacements le long des canaux, à faire la place aux piétons, aux cyclistes, aux transports en commun. Et ce projet, c'est une forme de projet témoin quand même. C'est la première réalisation sur le Grand Parc Canal qui va permettre de s'immerger quelque part dans l'ambiance qui sera celle du Grand Parc Canal. Et on y trouvera, dans cette échelle réduite, tous les éléments d'écriture de l'espace public en termes de hiérarchisation des modes de déplacement, de place de la nature en ville, de qualité du mobilier urbain, de l'éclairage aussi.
Ah, vous avez évoqué tout à l'heure VNF, je le précise pour ceux qui nous écoutent, Voie Navigable de France, c'est l'un des principaux partenaires, si ce n'est le principal partenaire du projet.
Ah, c'est un partenaire essentiel avec qui nous collaborons tous les jours et avec qui se réalise ce projet. VNF a la responsabilité des canaux et donc c'est important de pouvoir travailler avec eux. C'est le partenaire principal. Après, les autres partenaires, ce sont les citoyens.
On en dira peut-être. Et notamment les citoyens qui vivent dans ce quartier.
Exactement.
Ou dans les quartiers concernés, parce que, outre le parvis Brienne, il y a 8 autres sites qui ont été identifiés pour faire l'objet d'un réaménagement dans le cadre du projet Grand Parc Canal.
Alors effectivement, ce sont des sites qui ont été identifiés, sur lesquels nous allons débuter des aménagements qui seront provisoires, cette fois-ci, dans un premier temps, que nous testerons.
C'est-à-dire qu'ils seront réversibles.
Oui, parce qu'on peut se tromper et donc il faut être capable de pouvoir revenir en arrière. Mais effectivement, il y a le port de l'embouchure sur lequel il y a un test actuel de réaménagement avec une nouvelle piste cyclable. Le port Saint-Sauveur, les cales de Radou, le boulevard Griffoul-Dorval, l'écluse de Fenouillé, le lac du Bocage, toujours à Fenouillé, puis les écluses de l'Espinasse et de Saint-Jory, ce sont les sites sur lesquels, d'ici fin 2025, nous allons travailler.
Tous ceux qui habitent dans ces communes ont sans doute très rapidement identifié les lieux en question. Alors, il est question d'urbanisme tactique, j'ai vu cette expression. Qu'est-ce que ça veut dire, urbanisme tactique? C'est ce que vous évoquiez à l'instant, là?
Ah oui, c'est ça. L'urbanisme tactique, c'est un urbanisme qu'on espère réussir, mais qu'on fait transitoire. Si jamais il se trouvait qu'il y a des choses qu'on n'avait pas perçues, si ça ne correspondait pas au désir de la population, si ces travaux et ces modifications entraînaient des nuisances plutôt que nous ne le pensons pas.
Que des bienfaits.
Que des bienfaits, mais voilà.
Vous vous donnez le droit à l'erreur, en quelque sorte.
C'est ça, et je pense que les habitants que nous avons concertés sont sensibles également à ça.
Ils sont prévus aussi, j'ai vu qu'il était prévu, l'installation de haltes restauration, des espaces d'animation sur certains sites patrimoniaux qui ont déjà dû être ciblés. Lesquels ont été identifiés pour ces aménagements supplémentaires?
Si vous voulez, chaque aménagement à des cibles thématiques. Alors, il y a la restauration, il y a des points de restauration sur les bateaux, par exemple, qui sont envisagés, mais il y a des... Par exemple, les cales de Radou seront plus propres à la promenade et au déplacement doux que le port de l'embouchure, qui sera plus propre à une activité économique. Donc, chacun des sites a une thématisation qui est fonction de sa géographie, qui est fonction de l'existant aussi. On préserve l'existant. Et voilà, donc on mettra effectivement pas toutes les animations au même endroit et vous verrez qu'on essaye de diversifier les choses.
Quel est le budget qui a été alloué à ce projet et qui sont les financeurs?
Alors c'est 11 millions d'euros pour la période 2021-2026 puisque le Grand Parc Canal c'est
un
projet
de loin.
Qui va se dérouler sur plusieurs mandats, c'est le début d'une histoire. Donc là nous avons un budget de 11 millions d'euros pour cette période-là et c'est un budget qui est amené par Toulouse Métropole. Ce que je voulais dire, c'est que dans sa réalisation, nous avons fait appel non pas à un urbaniste, mais à une paysagiste
oui.
Qui est Jacqueline Osti.
Qui est très connue d'ailleurs.
Oui, qui est très renommée et qui a eu plusieurs prix nationaux et internationaux, de façon justement à ce que cette intégration du végétal, du paysage, dans l'urbanisation, dans un site urbain, puisse se faire de la meilleure manière possible.
Donc là, il n'y a pas de fonds européens, comme ça arrive parfois sur certains projets. Là, c'est vraiment financé essentiellement par Toulouse Métropole. Alors peut-être un mot aussi, parce que ça me semble important, sur les concertations publiques qui ont déjà eu lieu, qui se poursuivent concernant ce projet.
Ah oui, c'est un désir de Jean-Luc Moudenc que de pouvoir concerter en continu. Et donc nous avons concerté depuis 2021. Donc vous voyez, ça fait 3 ans que des réunions très régulières, site par site, se font avec des habitants. C'est un diagnostic qui a été établi au départ, une phase diagnostique. Qu'est-ce que l'on veut, comment on voit le
état des lieux, et puis où veut-on aller?
Où veut-on aller, exactement. Et c'est ça les questions qui ont été posées. Donc ce diagnostic et cette prospective sont fondées quand même sur la parole habitante. On a écouté les gens, on a essayé d'écouter les gens. Et si on fait la somme de tout, il y a quand même 2500 personnes qui ont été
qui se sont exprimées.
En 3 ans, qui se sont exprimées. Alors, d'accord, pas d'accord, avec des discussions. Mais il y a quand même une concertation. Et celle-ci va se prolonger. Elle se prolongera dans la réalisation des aménagements tactiques. Nous allons associer les habitants à la construction des mobiliers transitoires, par exemple, de façon à ce que cet élan puisse être poursuivi.
Je disais tout à l'heure, vous vous donnez le droit à l'erreur, mais vous consultez beaucoup avant pour éviter tout de même de faire des erreurs.
Ben oui, on essaye de faire au mieux, effectivement, de ne pas se tromper, de concerter au maximum.
Et pour s'inscrire, enfin pour participer plutôt à la concertation, c'est sur le site de Toulouse Métropole, il faut s'inscrire?
Absolument, vous l'avez sur le site de Toulouse Métropole, vous avez les informations et les réunions qui sont publiques.
Donc on retrouve les dates, les lieux où elles se tiennent sur le site de Toulouse Métropole. Eh bien, merci, il faut conclure cette émission. Un grand merci François Chollet d'en avoir été l'invité, de nous avoir présenté le chantier du Parvis Brienne et Cluse-Saint-Pierre et plus généralement le projet Grand Parc Canal, dont il constitue la première étape. Il y a une description précise des deux projets sur le site web de Toulouse Métropole, www.metropole.toulouse.fr, et c'est là également que vous pouvez vous inscrire pour participer aux concertations publiques. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine. Très bon week-end à tous.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.